I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et d'ailleurs, j'ai une autre problématique par rapport à ça. Une partie de mon travail, ça consiste à gérer l'argent des autres. Et le souci avec ça, c'est que je vois aussi quand il peut y avoir des problèmes de trésorerie. Ça me met aussi en empathie du coup avec les gens qui me payent. Et ça m'est arrivé de voir une trésorerie un peu plus compliquée et de dire non mais c'est pas grave, je t'offre un jour en fait. D'une, parce que je me dis, pour moi, le taf avec cette personne, il est important. Et de deux aussi, parce que je suis en empathie avec la peur de manquer potentiel de la personne.
Exécuté par
qui ?
Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque premier et troisième vendredi de chaque mois à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils ? Comment ils le gagnent ? Comment ils le dépensent ? Comment ils l'appréhendent tout simplement ? Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préférée, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail.
Je suis tellement content.
Oh là là, c'est la première fois que tu le fais en live là.
Alors déjà, c'est la première fois que je le fais en live. En gros, pour expliquer un peu aux gens, c'est un podcast que je fais depuis décembre dernier, où j'interview des gens sur leur rapport à l'argent. J'ai moi-même pas mal travaillé sur mon rapport à l'argent depuis 2 ans environ, et je me suis rendu compte que c'était encore plus tabou, je crois, que le sexe. Parce que la parole
du
sexe
s'est
énormément libérée ces dernières années,
les
notamment grâce aux réseaux sociaux, etc. Mais sur l'argent, on est toujours kéblo, hein, totalement kéblo. Et je me suis rendu compte en parlant notamment à mes amis autour de moi, en leur disant bah voilà ce que je suis en train de faire, je suis en train de travailler sur mon rapport à l'argent, etc. Et les gens pétaient des câbles. Donc je me suis dit que il était temps de faire sauter tous ces tabous, n'est-ce pas ? Et quoi de mieux ? On reste à peu près dans la même lignée que ce que Pauline racontait. Pour libérer la parole et pour faire sauter le tabou, il faut faire causer les gens. Donc 3 fois par mois maintenant, c'est nouveau, je sors un épisode où je fais parler des gens de leur rapport à l'argent. Et merci beaucoup Marie de faire ça, de m'inviter.
Merci,
et qu'on fasse ça en live. C'est la première fois que je vais faire l'exercice en live. C'est un peu différent parce que ouais. Généralement c'est un peu intimiste hein, comme sujet.
C'est vrai que en vrai, je suis assez d'accord avec toi sur le tabou du sexe et de l'argent. D'ailleurs, parfois c'est lié, hein. Mais effectivement, je pense que attends, je vais juste
parfois
remettre
c'est lié,
la.
Effectivement.
Tu laisses par semaine versus combien tu gagnes, c'est le même combat.
Ouais, bien sûr. Hein. Ça parle. Okay. Voilà. Ici, on parle d'argent parce qu'ils me font des subs, mais. Mais bien sûr, on va en parler. Je trouve que c'est hyper intéressant. Moi, je suis grave, grave contente du coup de vérifier mon setup une dernière fois. Hein, ouais. On était good.
Ce que je voudrais juste vous dire, c'est qu'on va pas réagir pendant.
C'est ce que j'allais
heure,
leur dire. Voilà.
Par rapport au chat, parce que je voudrais vraiment. C'est un moment que je vais reprendre après dans mon podcast. Et je voudrais que ce soit le plus intelligible possible. En revanche, ce que je vous propose le chat, c'est de faire un quart d'heure, 20 minutes de questions-réponses à la fin. De cette heure qu'on va passer ensemble pour pouvoir rebondir un petit peu si vous avez des questions, etc. quoi. Voilà. Oh, on a déjà parlé de daron pété.
Oui, avec Fab, on avait déjà parlé de daron pété, effectivement.
C'était un délire.
Je crois que l'intimité en stream, c'est le truc de Marie. J'aime bien. Moi, j'aime bien parler de ces choses-là. Je pense qu'effectivement, l'intime est universelle. Mmh. Et forcément, l'argent, c'est une question intime qui est en plus très enracinée dans notre histoire personnelle.
Mais clairement, parce que c'est l'un des trucs que j'ai découvert, c'est que il y a énormément de sujets autour de l'éducation et autour de, comme tu dis, de l'histoire perso et de transgénérationnel aussi. C'est-à-dire de trucs que tu te refiles, mais parfois sur des anecdotes complètement idiotes qui te traumatisent quand t'es gamin et en fait que tu traînes après pendant toute ta vie, quoi. Donc c'est un vrai sujet. En tout cas, merci beaucoup Marie d'être là.
Merci à toi.
Enfin, d'être là, de m'inviter dans ton podcast, dans ton live, qui va se transformer en podcast.
En podcast.
Bref. Marie, je suis très heureux de t'avoir parce que tu fais partie de la genèse du podcast Histoire d'argent.
Oui.
Puisque assez rapidement, je t'ai filé le bouquin de Christian Junot, qui est, en gros, qui lui se décrit comme coach dans la relation à l'argent, et que j'ai interviewé dans le tout premier épisode, qui était un peu une sorte de base de ce que j'ai envie de faire, où il déconstruit tout ça, tout le rapport qu'on peut avoir par rapport à ses parents, etc. Je t'ai filé son bouquin. Est-ce que tu pourrais redire un petit peu comment t'as réagi par rapport à le bouquin ?
Ouais, en fait, son livre, il s'appelle « Ce que l'argent dit de vous ». Moi, je prends pas beaucoup le temps de lire ces derniers temps, mais celui-ci, il m'intéressait parce qu'il dresse notamment des profils de rapports à l'argent, des gens qui ont des rapports à l'argent qui sont différents. Et dans ces profils, t'as l'écureuil, donc la personne qui est dans l'épargne, voilà, dans lequel moi je me suis reconnue, qui a une certaine retenue dans la dépense, qui réfléchit toujours à l'après. Est-ce que je risque pas de me retrouver en précarité à un moment, donc il vaut mieux que j'épargne. Il y a d'autres profils, donc les personnes qui, elles, ont un rapport à l'argent qui est un peu plus léger, décomplexé, qui vont être parfois plus dépensières, voire à outrance.
Qui vont cramer, qui vont manquer.
Ouais, exactement, en mode montagne ouais. russe. Et moi, ce qui m'a un peu gênée dans son livre, c'est que j'ai... En fait, ici sur mon live, on blague pas mal sur les bourgeois, les bourgeois, la gauche globalement.
On va en parler, mais t'es plutôt de gauche.
Ah bon ?
Non, mais les gens dans mon podcast ne connaissent pas forcément.
Quelle surprise.
Si tu veux, tu vois.
Ouais, bien sûr. Moi, je m'identifie en tout cas étant, je m'out de gauche.
Bravo.
Et ce qui m'avait un petit peu
agacé.
Ouais, agacé, c'est que moi j'avais perçu un côté, pour moi il y avait un angle mort dans son approche de l'argent et notamment des profils qu'il pouvait décrire. Et l'angle mort, il était pour moi celui de, en fonction d'où tu viens et de la façon dont tes parents ils t'ont donné tel ou tel rapport à l'argent. Et en fait, moi, des personnes qui se présentent comme des coachs de vie, qui vont t'apprendre qui vont t'aider à avoir un rapport apaisé à certaines choses. Déjà, le développement personnel, je m'en méfie beaucoup, globalement. Mmh. Mais en plus, quand c'est pour venir dire « Mais pourquoi t'es stressée ? Ça va bien se passer. Vraiment, t'as un rapport à l'argent qui est... » Moi, je l'ai vécu comme ça, tu vois, ce truc de « Mais pourquoi t'es stressée ?» Et le gars, littéralement, il vient du monde de la finance. Mmh. C'est le gars qui vient me faire des leçons, il vient du monde de la finance.
T'exagères un peu, parce qu'il dit aussi qu'il était blindé de peur.
Oui.
Alors qu'il était lui-même, enfin qu'il avait de l'argent.
Oui. Mais oui.
Donc en fait, il décorrèle très vite
ouais.
le niveau de financier que tu peux avoir et les peurs qui y sont liées. Quoi. Et d'ailleurs, j'ai eu, je vous invite à aller écouter Sébastien qui a gagné plusieurs dizaines de millions d'euros.
Et qui a toujours
la trouille au ventre de manquer d'argent en fait. Ouais. Donc c'est un peu décorrélé.
Ouais.
Pourquoi, à ce moment-là, t'es venu. Ouais, voilà, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
On est sur une colère vis-à-vis des riches, peut-être.
Oui.
Allez, on peut mettre les mots comme ça ou pas ?
Du coup, Christian Junot, il a dit que j'aimais pas l'argent.
Donc après, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis allé interviewer Christian, je lui ai effectivement parlé. Je lui ai dit, j'ai une amie qui m'a dit que vis-à-vis de ton livre, etc. Et il m'avait rétorqué dans l'interview. Mais peut-être qu'en fait, ce que ton amie interprète par rapport à l'argent, ça en dit plus sur elle que sur, sur moi.
C'est clair.
Et donc je me disais, un de ces quatre maris, j'aimerais bien l'avoir parce que
Octogone.
Avec ton parcours. qui vient, toi, donc d'une famille, on va en reparler, mais plutôt modeste, avec un parcours très ancré à gauche, un ancrage politique plutôt à gauche.
Ouais.
Et là, en fait, t'es dans un move où t'es en train de lancer ta boîte. Enfin, t'as lancé ta boîte.
J'ai lancé ma boîte en janvier.
Ça y est.
Ouais.
Et que t'es en mode girl boss.
Ouais.
Je trouve ça hyper intéressant.
Avec des problématiques de patronne aujourd'hui, quoi.
Exactement. Je trouve ça très intéressant de voir un petit peu où t'en es aujourd'hui par rapport à ça et comment tu appréhendes, toi, l'argent dans ce début de carrière, de vie d'entrepreneuse, quoi.
Ouais, bah là, tu me cueilles dans un moment.
I know.
Alors, j'essaie de plus parler de moments de transition dans ma vie. Tu vois, parce que.
Pourquoi ?
Mais parce que j'ai eu une. Je sais plus, je crois que c'est avec Alex, j'ai eu une discussion assez intéressante sur le fait que ces derniers temps, comme j'étais beaucoup dans l'évolution de plein de choses, j'ai quitté mon taf, je le disais en début de live, j'ai quitté mon taf il y a un an, j'ai quitté la vie salariée il y a un an. Pour moi, je me sentais en transition déjà auparavant, avant de quitter mon taf. Et ensuite, quand je l'ai quitté et que j'ai commencé à bosser à mon compte, je me suis sentie toujours en transition. Quand j'ai créé ma boîte, je me suis sentie toujours en transition. Je me suis dit, c'est peut-être pas une transition, en fait. Finalement.
C'est une longue, de toute façon, la vie est une longue transition, frère.
C'est une longue transition. Vraiment, c'est juste, effectivement, c'est juste des étapes.
Est-ce que tu peux nous indiquer combien tu gagnais par mois sur la fin de ta vie
salarié,
oui.
Du coup, j'étais chez Mad. Alors, c'était un petit peu particulier parce que
Spoiler, mais en gros, tu as bossé chez Mademoiselle.
Ouais.
Je le redis pour les gens qui savent pas forcément. Mais on a bossé ensemble pendant 4 ans chez Mademoiselle. Mmh. Et puis, moi, j'ai quitté la boîte et toi, tu y es resté encore à peu près un an.
Ouais, c'est ça. Donc, j'y ai bossé pendant 4 ans. J'ai pas eu d'évolution de salaire pendant ces 4 années. Par contre, un an et demi avant de partir de Mademoiselle, je suis venue te voir et je t'ai dit, j'ai mes projets perso à côté, j'aimerais bien passer en 80%. Et j'aimerais bien ne pas perdre en salaire. Et donc, toi, tout bon patron que tu es, tu m'as dit, ok, est-ce que tu penses que tes projets vont pouvoir rentrer dans le 80% que tu comptes faire à partir du moment où les projets se tiennent? A priori, j'ai pas de problème à ça. Et je me souviens même que, après coup, j'étais revenue te voir en te disant, on est d'accord que par contre, mon salaire, il bouge pas. On va revérifier quand même.
On va en reparler. En termes d'argent, ça bouge ou ça bouge pas?
Oui, voilà. Et tu m'avais dit, on est d'accord. Donc, techniquement, c'était comme une forme d'augmentation pour moi, vu que voilà. Mais donc, je suis rentrée chez Mademoiselle à 2200. Et quand mes impôts étaient prélevés, ça me faisait environ 2000 euros net par mois. Donc, quand j'ai quitté Mademoiselle, j'étais autour de 2000 euros net par mois. Et aujourd'hui, pour être totalement transparente avec vous, c'est ce que moi j'arrive à me payer avec mes activités en tant que boss de ma boîte. Alors, merci pour les subs.
Pas que le stream.
Mais
tu fais plein d'autres choses à côté.
Je fais plein d'autres choses à côté. Et depuis février, j'arrive à me payer.
En moins d'un an, donc.
Voilà.
Ce qui est quand même canon.
Ouais, ce qui est ce dont je suis fière.
Ouais.
Ouais.
On va en parler. La première question que je pose à tous mes invités, c'est quand je te dis argent, qu'est-ce que ça évoque pour toi?
Putain, en plus, je les écoute, tes podcasts. Pourquoi j'ai pas préparé ça?
T'as bugué tellement fort. C'est quoi le premier truc qui vient? Vas-y, je réfléchis pas trop.
Difficile.
Ok.
Difficile parce que difficile à gérer. Parce que moi, j'ai un rapport difficile à l'argent. Parce que la société a un rapport difficile à l'argent. Parce que l'argent tire tellement de ficelles complexes dans notre monde, je trouve que c'est difficile, quoi.
Difficile dans le genre pas fluide, dans le sens pas fluide,
pas
c'est
fluide
ça
et prise de tête aussi. Que ce soit avec moi, avec les gens qui m'entourent ou les gens avec lesquels je vais pouvoir négocier. Et moi, j'essaie, mon travail ces derniers temps, justement par rapport à l'argent, c'est de fluidifier ce rapport-là que j'ai avec l'argent.
Okay.
De le voir comme une donnée faisant partie de ma vie et non plus comme ce truc émotionnel qui peut être source d'angoisse, de culpabilité. Ah oui, difficile parce que coupable d'avoir de l'argent.
À la gauche.
Oui, oui.
Bon, on en reparlera.
Ouais.
Ok. D'accord, donc ton objectif là en ce moment et ces dernières années j'imagine, et notamment cette dernière année en tant que boss, c'est aussi de te dire comment je fais pour fluidifier un petit peu ce rapport un peu compliqué, quoi. Ok.
Et aussi de gagner Et je vais le dire franchement, aussi gagner plus d'argent. Parce qu'en fait, oui, oh, waouh.
Tu dis ça comme si t'étais là, attention.
Elle a osé.
Je vais dire un truc de dingue.
Ouais, bah oui, parce qu'en fait, moi-même, en fait, je suis très fière, tu vois, de réussir à me payer avec ma boîte. C'était mon objectif premier en étant indé. Et j'en suis d'autant plus fière qu'on dit souvent que dans la prod audiovisuelle, on n'arrive pas à se payer ou à se rentabiliser avant 3 ans. C'est ce que vous entendrez souvent dans ce milieu-là. Là, on est dans un milieu qui est particulier, bien sûr, avec YouTube et Twitch et tout, mais c'est quand même une donnée à prendre en compte. Donc, je suis déjà très fière de réussir à me payer et de me payer ce niveau-là qui me permet, moi, d'avoir le niveau de vie dont j'ai besoin pour être bien à Paris. Parce que je rappelle que j'habite à Paris et que la capitale, on n'a pas le même niveau de vie non plus que dans d'autres villes. Et que je vis seule, en plus, donc j'ai mes charges seules. Donc ça, je suis contente d'arriver à ça. Mais, moi, j'ai aussi été ces dernières années avec des gens qui m'ont donné une autre vision de l'argent qui est en mode, mais on veut s'en mettre plein les fouilles aussi parce qu'on veut se faire putain de plaisir, en fait. Parce qu'on va, à un moment, on va mourir et on va pas mourir avec cet argent. Donc, autant le dépenser maintenant, le cramer maintenant.
OK.
Ce qui était compliqué aussi à entendre pour moi parce que.
Pourquoi ? J'ai envie de te demander.
Bah, parce que. Non, mais c'est ça. Mais parce que moi, je me disais, oui, mais du coup, si tu le crames demain, t'as plus d'activité, t'es en galère, tu peux plus payer ton loyer, il se passe quoi ?
On revient à une petite peur, là, de manquer ?
Bien sûr, la peur de manquer, elle a toujours été là. Mais en même temps, d'avoir ces modèles-là, ça m'a fait me dire... est-ce que moi aussi, j'ai pas envie de un jour pouvoir m'acheter une maison, pouvoir payer le mobilhome à la daronne.
Donc il y a un truc aussi, mais on va en reparler de ton rapport à tes parents et à ta
mère,
à
mes proches,
qui est important, quoi.
C'est en ça que je parle aussi parfois de cette fluidité. Pour moi, l'argent, j'ai pas d'intérêt à le garder pour moi. L'argent, j'aime bien le dépenser avec les autres. J'ai plus de plaisir à le dépenser avec les autres. Et je pense que ça aussi, ça en dit long sur mon rapport à l'argent.
On revient aussi un petit côté de gauche.
De gauche.
Réussir à
la collectivisation.
Bon, le communims.
Le communims, voilà, c'est ça.
L'autre question que je pose à tous mes invités, c'est est-ce que tu as un souvenir précis d'enfance? C'est quoi ton premier souvenir par rapport à l'argent? Vous ne la voyez pas, mais elle a fait une grimace.
Oui, j'avoue, je suis hors cadre. Attends, vas-y, je vais juste changer ça vite fait. Je suis un tout petit peu hors cadre. On va essayer de régler ça.
Je t'ai vu en train d'esquiver, de tenter d'esquiver.
Ouais, ça m'a
laissé
du temps pour réfléchir. En fait, à quoi j'ai pensé? Bah, je suis pas sûre que ce soit le premier souvenir. C'est pour ça que je voulais me laisser 2 secondes en bougeant ma caméra pour répondre à cette question. En fait, Attends. Ah, si, j'en ai un bon là.
Okay.
Ah, j'en ai un bon. Ma daronne, quand j'étais ado, il y a eu une période assez compliquée où elle n'arrivait pas forcément à nous acheter tous les vêtements dont on avait besoin. C'était un peu bon.
Tu peux le dire très clairement, vous étiez financièrement précaire.
Oui, c'était chaud. C'était chaud. Oui.
Pourquoi t'as tenu le truc, tu vois?
Ah, j'avoue, je sais pas.
Ouais.
Voilà, merci Fab.
Non, mais c'est...
Et un week-end sur deux, j'allais chez mes grands-parents, chez qui mon père était hébergé. Regardez le live d'Aaron, vous comprendrez le bail.
Je vous mettrai le lien.
Voilà. Mais en gros, j'ai un souvenir très précis d'un dimanche matin où je dis à mes grands-parents que je vais sur le marché, petit marché d'Alfortville, rue Édouard Vaillant, voilà, très sympathique, où il y a des beaux jeans. Vous savez, des jeans brodés là, des années 2000.
Yes.
Les pulls Comate.
On connaît.
Cette belle époque. Et mon grand-père, il arrive et il me donne 15 balles. Et il me dit, tiens, bah, tu
15 t'as... francs.
Non, parce qu'on venait de passer. Moi, j'étais jeune quand même. 2002, on est passé en euros. Mais j'étais ado. Début.
Ah, t'étais ado, pardon.
J'étais ado. J'étais pas enfant, j'étais ado.
Ah ouais, donc c'est pas vraiment un souvenir d'enfance.
Non, mais je devais avoir 12-13 ans, okay. Tu vois, 12-13 ans.
C'est un souvenir de grande enfance.
Ouais, grande enfance.
Avant, t'as pas de souvenir du tout.
Bah non, tu sais, le problème, c'est que mon enfance, je m'en souviens pas bien.
Okay.
J'ai des trous sur certains trucs.
Okay.
Mais par contre, ado, je me souviens un peu mieux. Et du coup, là, tu vois, je me suis souvenu de ça quand tu m'as dit...
Donc 15 euros, pardon.
Donc il me file 15 euros. Et il me dit, bah, si tu veux, tu peux t'acheter un jean et tout. Les jeans, c'était 10 balles ou 15 balles au marché. Et là, je vois ma grand-mère qui débarque et qui fait à mon grand-père, mais t'arrêtes de leur donner de l'argent comme ça, c'est bon. Moi, j'étais là. J'ai littéralement besoin juste de je suis avec trois pantalons et une paire de chaussures, en fait. Donc, et mes chaussures, elles sont trouées. Donc, si tu veux, mon grand-père qui me donne 15 balles, je suis là, bah, merci, papy, c'est gentil. Et mon grand-père, il était généreux. Et depuis ce jour-là, il a commencé à nous donner de l'argent sans que ma grand-mère puisse le voir.
Ah, donc, en plus, il y a une forme de secret.
Il y avait une forme de secret.
Au sein de la famille, là.
Voilà.
L'argent, il ne faut pas que ça se sache, trop, que ça sorte.
Mais mon grand-père, lui, il était très généreux. On allait faire les courses, quand on allait en week-end chez eux, on allait faire des courses ensemble et il nous disait, mais vous prenez ce que vous voulez. Il nous prenait des mangas, il nous prenait des bonbons. Enfin, voilà, il nous gâtait de ouf.
C'est du côté de ton père. Hein,
du côté de mon père, ouais. Okay. Et ma grand-mère, par contre, elle était ultra pingre et elle voulait jamais rien, elle voulait jamais rien dépenser et ils partaient, enfin autant dire, ils sont jamais partis en vacances, alors qu'en plus c'était mon grand-père qui avait amené tout cet argent là parce que il avait taffé pour toute la famille, elle était femme au foyer, elle a jamais travaillé de sa vie et du coup, enfin moi ça m'avait...
Il faisait quoi ton grand-père comme...
Il était cadre aux Presses Parisiennes, okay. Les NMPP,
okay.
Il était en charge d'un centre de distribution. Je crois, je veux pas dire de bêtises, mais
NMPP, en gros, c'est la boîte qui historiquement, alors je crois pas que ça existe encore aujourd'hui, mais
je crois que ça existe plus,
qui distribuait les journaux, ouais. Naguère,
ouais.
Okay. À Paris, dans les kiosques, etc., etc.
Exactement. Okay. Et donc il fait ça et ça m'a marqué, quoi. Je me suis dit, mais en fait on galère là, c'est juste pour nous acheter, c'est pas pour nous acheter des conneries, c'est genre juste m'acheter un jean parce que j'ai pas beaucoup de vêtements. Et donc depuis, ouais, mon grand-père, quand il voulait nous filer un peu de thunes avec mon frère et moi, bah il nous le donnait soit quand il nous ramenait chez ma daronne après et que ma grand-mère elle était pas là, soit un peu sous le manteau, quoi. Et toujours caché, quoi. Faut pas montrer, faut cacher. C'est, tu sais, on te le donne comme ça et puis c'est, on le met dans la main mais caché. Et je pense que ça aussi ça a conditionné mon rapport à l'argent. L'argent, faut pas le montrer. Après, j'ai appris que ma grand-mère, le compte en banque de mes grands-parents, il était extrêmement bien fourni. On parle de 6 chiffres. Et que bon, les 15 balles du jean sur le marché quand j'avais 13 ans, il n'y avait pas vraiment besoin de venir faire la leçon. D'autant que mon père ne payait pas de pension alimentaire à ma daronne. Et ce qu'on faisait, mon grand-père, c'était une compensation, oui. En fait, à ce moment-là. Donc... Je pense que ça a conditionné mon rapport à l'argent aussi. Ouais, vite fait. Vite fait.
Ok. Quand tu grandis, tu vis avec ta mère, c'est ça, avec ton,
ouais,
frère et ta mère.
Ouais.
Ta mère qui gagne pas beaucoup d'argent, elle est travailleuse sociale.
Bah ouais, elle est fonctionnaire, elle est assistante sociale. Donc c'est plafonné en fonction de ton ancienneté et de où est-ce que tu travailles, tout simplement. Donc elle a un salaire de fonctionnaire avec les charges d'une maison à payer. Même si à ce moment-là, quand mon père il fait son accident, il y a l'assurance qui prend en charge le remboursement du prêt de la maison.
Alors ouais, ton père a un accident,
ouais.
Pour situer un petit peu. Ouais. Mais ton père a un accident de santé, enfin
ouais.
Un problème de santé. Qui finit par l'invalider, c'est ça ?
Oui, c'est ça, ça l'invalide. Il quitte la maison. Il va habiter chez mes grands-parents, donc ses parents à lui à ce moment-là. Et ma mère se retrouve donc avec nous deux. Et le compte vide parce que mon père, il a vidé le compte avec l'alcool. Donc...
Tu veux dire que ton père a dépensé tout l'argent ?
Ouais.
Ça rend... À picoler.
Ma mère, elle faisait rentrer, il faisait sortir. Donc
bon, c'est chargé, quoi. De...
Oui, bien sûr. Bah oui, bien sûr.
C'est chargé de sens. Comment tu le vis, toi, à l'époque, le fait que, par exemple, ta mère doive se démerder toute seule et que ton père vide pas, non seulement ne paye pas de pension, mais en plus a dépensé l'intégralité de l'argent en picole.
Bah, comment est-ce que je le vis? Bah, en fait, moi, je suis dans du quotidien à ce moment-là. Je veux causer le moins de problèmes possible et aider comme je peux ma daronne pour pas lui, juste, tu vois, pas lui causer de soucis, que en fait ce soit pas une préoccupation pour elle.
T'as quel âge à l'époque ?
Je suis ado. Mon père, il fait sa rupture d'anévrisme. J'ai 11 ans. Donc
très bon âge.
Ouais. Et bon. Mon frère, il en a du coup 8-9.
Okay.
Et on Ouais, 9 ans, c'est ça. Donc, c'est un. En plus, on est à la campagne, dans un milieu rural où il n'y a pas de transport en commun. Et où, du coup, bon, il n'y avait pas la tentation de dépenser l'argent en dehors de. Bon, il y avait cet avantage-là quand même. Par contre, Internet n'existait pas beaucoup pour nous. Bah, pareil, le premier ordinateur, on l'a eu, je pense, en 2001. On n'a pas tout de suite eu. On a eu Internet, mais en mode 50 heures ADSL.
Oui.
Alors que moi, j'avais des copains au collège ou à l'école primaire qui me disaient déjà qu'eux, ils avaient. Puis alors, eux, ils avaient l'encyclopédie Encarta.
Ah,
ils avaient Civilisation. Enfin, c'était des bourgeois,
les
quoi.
Les bourgeois,
tu
j'allais,
vois
dire, j'allais le dire, tu vois. Saloperie de bourgeois, là. On revient toujours à ça. Comment tu vivais, toi, le fait d'être pauvre, en fait, par rapport aux gamins qui étaient plus riches, justement?
Avec le recul, je me dis que j'avais pas beaucoup d'amis à l'école primaire et au collège. J'ai eu beaucoup de mal à me faire des amis, mais par contre, j'ai toujours connecté avec des gens qui étaient en général dans une forme de précarité aussi. Mon amie d'enfance Maëlle, elle vivait seule avec sa mère dans une toute petite maison qui était un petit peu vétuste et tout, et elle aussi a galéré à joindre les deux bouts. Et je me dis que c'est pas un secret si en fait on arrivait autant à se comprendre, elle et moi, à cette époque, c'est qu'on vivait aussi la même chose. Ce que je comprenais, parce que ma mère, elle vit dans un village, déjà elle est en haut du village, elle est à 2 km du centre, et du coup tous les gens qui étaient à l'école primaire, eux ils vivaient dans le lotissement, tu vois, le lotissement,
ouais.
Et c'était des petits propriétaires blancs, pas classe aisée, tu vois, mais simplement classe moyenne-basse, je pense, rien que ça.
Mais qui étaient de plus haute classe que vous.
Voilà, exactement. Voilà.
Tout est relatif.
Et du coup, tu rentres au collège et le jugement, il se porte vachement sur ton apparence, ce que tu portes, est-ce que tu as des fringues de marque. Nous, c'était hyper, hyper important. J'étais dans un collège, c'était un collège ZEP, je crois, à l'époque. Il y avait une section SEGPA et c'est en pleine ruralité. Et donc, c'est pas très mixte. Par contre, il y a quelques profils prolo et c'est ceux qui se font bolos. Tiens, je me souviens d'ailleurs... Je me souviens
en
d'une
parlant.
Fois où j'ai stand-up pour un gars. C'était... Ah oh ouais, ok, trop précis. Comment il s'appelait? Il s'appelait Franck.
Franck, si tu nous écoutes.
Non, mais c'est trop marrant comment des fois tu as des anecdotes qui te reviennent juste parce
que c'est le pouvoir de la parole. Hein.
Incroyable.
C'est fou. Hein.
En parlant, on pense à des trucs.
Non, mais trucs de ouf. Hein.
Incroyable. Il faudrait faire des podcasts là-dessus, non?
Qu'est-ce qui s'est passé avec ce bon Franck? Qu'est-ce que tu as fait?
Mais en fait, c'était un gamin qui toute l'école et ensuite le collège savait que c'était le il était dans une extrême pauvreté. Son père, il avait une forme d'invalidité et il était aussi alcoolique. Et Franck, c'était le gamin avec lequel personne ne voulait traîner parce que il était en haillons en fait. Enfin, moi, tu vois, j'avais pas des fringues de marque et tout, mais lui, vraiment, ses chaussures, il avait des trous dans les chaussures, dans les chaussettes, dans tout était troué quoi. Et ça se voyait qu'il était dans une situation de précarité vraiment extrême. Je pense qu'il y avait des jours où il bouffait pas et tout quoi. Moi, ça n'a jamais été le cas. Mmh. Vraiment une chance que ça n'a pas été le cas. Mais il était dans cette case-là et du coup, aucun gamin voulait traîner avec lui. Et je me souviens d'un jour au collège, je devais être en 6e ou 5e, où il était très solitaire, quoi. Et il s'est fait bolos par un groupe de mecs qui sont arrivés, ils ont juste décidé qu'ils allaient le faire chier. Et il avait des biscuits, détail de merde, hein, mais il avait des, tu sais, je pense que c'est des biscuits que tu donnes aux chevaux sur lesquels il y a écrit des mots dessus. Tu te souviens ou pas?
Non, mais ok.
C'est vraiment des tout petits biscuits qui coûtent absolument rien.
Ouais.
Et lui, il en avait un sachet entier.
Ok, je vois.
Il en avait un sachet entier qui devait être son goûter. Et les mecs, ils sont arrivés, ils lui ont pris son paquet et ils l'ont renversé comme ça dans la cour, alors que c'est potentiellement le seul truc qu'il avait à bouffer à ce moment-là, quoi. Juste l'envie d'être méchant pour être méchant. Et moi, j'avais repéré ce truc-là et je faisais partie de ces cassos à qui personne parlait. Et je sais pas ce qui m'est arrivé. Alors moi, j'étais brindille. Hein. Je faisais du 40, 1m60 brindille, j'arrive avec mes fringues de merde. Et je fais, vous faites quoi là? Et je commence à les embrouiller. Et le mec, il commence à m'embrouiller aussi. Franchement, je sais même plus comment ça s'est terminé. Mais juste d'assister à cette scène-là, ça m'a mise complètement, mais vraiment hors de moi, au point que je me suis même pas rendu compte que là, j'étais en train de stand-up pour un gars qui, lui, n'avait rien demandé, il m'avait pas interpellé ou quoi, face à 3-4 mecs qui potentiellement auraient pu me chercher des noises aussi derrière, quoi. Et je me souviens plus comment ça se termine, mais je me souviens juste d'être intervenue de cette façon-là et que ça m'avait vraiment choquée. Et je crois que c'est pas pour rien que ça m'avait choquée, c'est parce que moi, je voyais bien ce qui lui arrivait à Franck aussi, dans... qu'il avait pas choisi d'être pauvre, en fait.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est pour ça aussi que cette violence, tu vois, je la ressens aujourd'hui de façon plus systémique dans notre société que quand j'entends des témoignages forts de gens qui viennent juste raconter ce qu'ils vivent au quotidien. En fait, j'ai grandi aussi avec ces personnes-là et c'est hyper compliqué pour moi d'accepter d'être inactive vis-à-vis de ça.
Mais tu te rends compte quand t'as 12 ans que effectivement le fameux Franck, il est dans la merde et qu'en fait les gamins le sont moins. C'est-à-dire comment ça se... Tu vois ce que je veux dire?
Mais bonne question. Mais je suis pas sûre de l'avoir conscientisé à ce moment-là. C'est juste que ça m'a prise au trip, cette injustice-là. Et j'ai eu toujours un rapport très fort aux injustices. Non, vite fait. Et dans plein de domaines. C'est quelque chose que j'ai jamais réussi à accepter. Et j'ai du mal à rester inactif vis-à-vis de ça.
Okay.
Je suis pas sûre de l'avoir conscientisé à ce moment-là, que j'étais en train de me dire « Ah bah, ils sont en train de bully le mec pauvre. » Mais je me souviens qu'à l'époque... Le gars était justement ostracisé parce que tout le monde disait « Ah mais il est pauvre. »
Tu grandis, j'imagine, lycée, le bac. T'as une volonté, toi, dans ta tête de te dire « Moi, j'ai envie de faire des études pour aussi sortir de cette précarité. » C'est lié ensemble ou pas?
En fait, j'ai eu une... Alors, je ne sais pas si c'est lié, mais en CM2, j'ai eu une prof, une instite, qui s'appelait Madame Bernet.
Madame Bernet.
Madame
si
Bernet, SO, Madame Bernet.
Bonjour.
Qui était incroyable et qui nous avait pas mal informés sur ce qui se passait pendant la guerre du Golfe. En CM2, hein, elle nous faisait lire des trucs comme ça. Et donc, elle nous fait lire des articles. Elle dit, voilà, on est en train de lire un article qui a été écrit par un ou une journaliste. Et nous, on dit, ah ouais, journaliste, c'est quoi? Et c'est, journaliste, tu donnes des informations et tu permets aux gens de comprendre ce qui se passe dans le monde. Moi, j'étais là, trop bien, trop ouf. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, pendant des années, je veux devenir journaliste. Et j'ai plus été drivée par cette envie-là que par une envie d'être transfuge.
Transfuge de classe.
Transfuge de classe. Je me suis toujours dit, je voudrais réussir à avoir un niveau de vie où je galère pas et j'ai pas ces angoisses financières, parce que ma mère, elle pouvait les avoir, cette peur d'ouvrir la boîte aux lettres, juste de pas ouvrir la boîte aux lettres pendant plusieurs jours, de peur de découvrir des factures ou des trucs à payer qui étaient pas prévus et qui vont mettre dans la merde. Moi, j'ai grandi en me disant, je veux pas vivre ça. Mais tout en ayant de l'admiration aussi pour ma daronne, du coup, qui faisait tout ce qu'elle pouvait pour nous garantir un niveau de vie à mon frère et à moi, et nous donner les moyens aussi d'avoir une vie où on ne se poserait pas cette question. Et elle a jamais pu se permettre de nous donner de l'argent de poche, mais elle nous a tellement encouragés dans nos projets à mon frère et à moi que finalement, j'en ai pas eu forcément besoin. Et où je me suis toujours dit, ok, je vais partir du principe que j'ai pas de filet. J'ai pas de filet de sécurité, j'ai pas des darons. Si je dis je veux faire mes études à Lyon, ils vont me payer l'appart pour que je me barre à Lyon. Enfin, c'est pas un truc qui existe. C'est aussi pour ça que je me suis retrouvée dans une fac de merde juste après le lycée. C'est d'une, parce qu'on m'a pas bien orientée au lycée, parce que je venais d'un lycée de Bouzeux et on a dit carte scolaire, ce qui n'existait pas, c'est pas vrai, j'aurais pu aller dans une fac parisienne, tu vois. Mais aussi parce que clairement, quand tu viens de certaines classes, on t'oriente plus vers certaines.
Ouais, et puis je crois qu'il y a toujours une sorte de cercle vicieux ou de cercle vertueux, quoi. C'est-à-dire que quand t'as des darons qui savent à peu près comment faire aussi pour t'orienter, on s'arrête pas à juste la conseillère ou le conseiller d'orientation du lycée, quoi.
Et ma mère, elle en a fait des rendez-vous justement avec moi et des conseillers d'orientation. On est allé au Quai Branly. Un jour, on est allé au Quai Branly à Paris. Quand tu viens de Seine-et-Marne, aller au Quai Branly, on fait l'effort, quoi, tu vois. Mais à chaque fois, elle a toujours été là pour m'accompagner dans ces démarches-là. Mais en fait, on avait des gens pas très bons en face de nous à chaque fois sur l'orientation. Donc, c'est toujours limité pour les parents. Enfin, c'est un peu limité pour les parents quand ils connaissent pas les.
Bien sûr.
Voilà.
Je connais. Hein.
Je sais. Juste ouvrir un petit peu.
Vas-y.
Mais n'hésite pas, je continue à t'écouter.
Tu parlais tout à l'heure de que ta mère avait peur d'ouvrir la boîte aux lettres.
Ouais.
Donc j'imagine qu'il n'y avait pas que cette peur-là autour de l'argent. Il y a plein de peurs qui gravitent autour. T'as la sensation qu'elle te les a refilées, même inconsciemment, ces peurs-là?
Je pense que ça vient en partie de ça. Je le vois aussi parce que mon frère, il peut avoir des angoisses assez similaires de manquer. Lui, il est dans une situation qui est différente aujourd'hui. Il est chef de rayon à Leroy Merlin. Et il monte les strates progressivement. Il a commencé vendeur, ensuite il est devenu chef de rayon, il espère devenir chef de secteur, voilà. Et il est hyper... mon frère, il est trop méritant, il est trop fort, il est déter, il bosse... Enfin, je l'admire aussi beaucoup. Mais je vois qu'il a le même type... Il peut avoir le même type d'angoisse que moi sur certains aspects, notamment dans la peur de manquer. Il est en plus dans une problématique différente parce que lui, il est resté dans le coin de Madarone. Donc, il vit à la campagne avec une voiture à entretenir, essence, charge, assurance, etc. Donc, lui, il est un peu pris à la... Typiquement, il fait partie de cette tranche de Français qui sont actuellement un peu pris à la gorge parce que la crise, parce que tout augmente, sauf leur salaire. Et tout est plus cher et ça devient compliqué. Et lui, il n'a pas la perspective, contrairement à moi... de se dire ma liberté aujourd'hui, c'est de me dire ok, si c'est trop difficile, je vais aller essayer de chercher des projets plus ambitieux, plus grands. Je vais essayer de m'ouvrir des portes. Mais quand t'es dans un boulot salarié tel que celui dans lequel il est lui aujourd'hui, les compléments de revenus ils sont pas il y en a pas mille.
Alors, qu'est-ce qui a fait la différence, tu crois, dans votre éducation, dans votre approche entre les deux? Dans ton chemin à toi, ou moi, quand je te rencontre il y a 5 ans de ça ou 6 ans de ça, tu es déjà dans une démarche, alors certes associative, mais de projet, tu vois, donc tu t'enrichis
beaucoup
pas.
Beaucoup de bénévolat, ça aussi, c'est un petit long.
On peut en parler du bénévolat si tu le souhaites, hein. Mais où tu t'enrichis pas, mais en tout cas, tu fais des choses, tu vois. Et j'ai l'impression que tout ce bénévolat et tous les trucs que tu as pu mettre en place, ça t'a aussi préparé aujourd'hui à faire, à devenir girl boss, quoi, clairement, à lancer ta boîte. À ton avis, c'est quoi qui vous différencie, tu vois, dans l'approche par rapport à lui qui est rentré dans une vie très salariée finalement, et il n'y a rien de péjoratif derrière ça, quoi, tu vois.
En plus, lui, il a un petit peu bossé avec mon oncle. Le seul modèle d'entrepreneur, tu vois, je t'en parlais, le seul modèle d'entrepreneur que j'avais, moi, c'est mon oncle qui est cuisiniste. En Normandie, qui est donc le mari de ma tante. Et lui, il a monté son entreprise et il a embauché son fils, il a embauché sa femme à la compta et tout. Mais on nous en a toujours parlé comme étant de la truc, enfin, une entreprise un peu compliquée, nan. Et mon frère, il a un peu bossé avec mon oncle et je trouve que ça aurait pu être un modèle justement très bon, ok, on va être dans l'entreprise, mais en même temps comme il en a une image potentiellement de quelqu'un qui a beaucoup bossé et les résultats financiers, ils ont pas l'air d'être ouf, mais je pense que ça c'est plus de la façon dont ils perçoivent les choses par rapport à l'argent qu'une réalité factuelle de ce qu'ils gagnaient,
toujours,
tu vois.
En fait, je
me suis beaucoup posé la question, parce que même dans nos parcours dans l'enseignement supérieur, on n'a pas du tout fait les mêmes choses. Lui, il a fait un un bac ST, ça devait être STI ou STG à l'époque, donc c'était pas un bac général, et après il a fait une sorte de bac plus 2 si je me trompe pas, alors que moi j'ai poursuivi mes études jusqu'en master 2 et en terminant carrément à la Sorbonne Nouvelle, donc en plus dans des sphères très parisiennes, etc., et avec en plus des engagements associatifs. On a en commun d'avoir eu tous les deux des boulots étudiants, et de jamais du coup avoir demandé quoi que ce soit à notre daronne.
C'était limite un principe dans votre éducation, tu crois, ou...
Non, c'est nous qui sommes allés le chercher, très simplement parce que t'es au milieu des champs, il faut bien payer l'essence et l'entretien de ta voiture, donc tu prends un boulot étudiant, quoi. Tu prends les bourses et tu prends un boulot étudiant. Mais par contre, on a deux. Je pense que c'est plus lié à nos personnalités à tous les deux. Vraiment, on a des personnalités, on a des valeurs communes. Ça, elles sont vraiment nos valeurs de solidarité familiale. Ce qui nous touche au quotidien, c'est philosophiquement et tout, c'est commun. Mais on n'a pas les mêmes visions, les mêmes ambitions de vie. Ça peut être lié, je pense que c'est lié à nos entourages, de qui sont ses potes, qui sont mes potes, et aux expériences qu'on a eues. Moi, j'ai eu des expériences où on m'a mise en confiance aussi sur mes compétences, et je pense que c'est ça qui fait que j'ai pu avoir assez confiance pour lancer ma boîte il y a 5 mois à la fin, quoi.
C'est pas parce qu'on te met en confiance dans tes compétences dans un boulot salarié que t'as forcément envie de te lancer dans un
ouais, carrément,
dans un job, dans une création d'entreprise, quoi, je crois.
On a un rapport au travail qui est très fort tous les deux. Lui, il a besoin de reconnaissance dans son boulot. Ça, c'est vraiment commun à tous les deux. On a besoin d'être bien dans notre boulot et que ça ait du sens, en fait, ce qu'on fait.
Je voudrais parler de culpabilité avec toi. Autour de l'argent. Comment t'as fait, comment t'as la sensation avec le recul que ta culpabilité par rapport à l'argent a évolué depuis la gamine qui se voit bolos par sa grand-mère parce qu'elle est en train de recevoir 15 balles par son grand-père, à aujourd'hui où t'es en train de te dire moi en fait j'ai envie de gagner ma vie et de gagner de l'argent en fait avec cette boîte que je viens de monter, quoi.
Un rapport c'est ce que j'ai, l'adjectif difficile. Parce qu'il y a des nouvelles choses qui rentrent en ligne de mire dans cette histoire. Le fait d'être dans ma propre activité et d'avoir des engagements auprès des gens avec lesquels je travaille, ça me met forcément une forme de pression qui fait que j'ai envie que les choses soient bien faites et de me donner les moyens que les choses soient bien faites. Pour que les choses soient bien faites, j'ai aujourd'hui besoin de m'appuyer sur des gens qui m'entourent et qui vont m'aider à mener les projets, parce que je peux juste pas me dédoubler, en fait.
Ah, mais on revient à la culpabilité. C'est quoi le lien avec la culpabilité, là?
La culpabilité, je la ressens quand je me dis, ok, si moi je me paye tant et que j'ai des gens qui m'aident au quotidien sur des choses, mais que j'en suis pas encore au modèle économique où je peux me permettre de payer des gens comme moi, par exemple. Là, ça soulève une forme de culpabilité, tu vois. J'ai du mal.
C'est dur pour toi de te placer au-dessus.
Ouais.
En termes de salaire, ouais, par rapport aux gens avec qui tu travailles.
Ouais, exactement. C'est ce que j'essaie de dire. Ouais.
Et pourquoi c'est dur? Parce que t'as la sensation que tu mérites pas autant?
Je pense que je mérite autant, mais que les autres, ils méritent aussi. et c'est vraiment cette idée de me placer au-dessus qui est compliquée pour moi, qui est vraiment ce truc, je pense, qui nous traverse à gauche. Quand on est en lutte pour l'égalité, on est en lutte pour parfois une égalité qui est assez radicale. Et moi, c'est ma vision, effectivement, de l'égalité qui est radicale.
Mais donc aujourd'hui, t'es pas au point où tu vas pouvoir payer autant les gens avec qui tu travailles que toi.
Ouais.
Donc comment tu fais?
Je trouve des entre-deux.
C'est-à-dire
notamment, je travaille avec des gens. Je pense qu'aujourd'hui, dans mon activité, j'aurais besoin d'une... Là, de ce que je vois et de mon fonctionnement, j'aurais plus besoin d'une personne qui est à plein temps avec moi. Pour venir m'accompagner sur plein de choses, plein de projets, prendre une partie des tâches qui moi me font pas kiffer ou qui sont plus fastidieuses et que peut-être d'autres personnes qui feraient plus faire, tu vois.
Et donc ça veut dire qu'il faut que potentiellement tu sortes de l'équivalent de deux salaires comme
c'est
toi.
Ça.
Aujourd'hui tu te payes 2 000 euros,
ouais.
Donc ça fait 4 000 euros chargés.
Ouais.
Donc ça veut dire qu'il faut que tu rentres potentiellement 8 000 balles par mois,
ouais,
dans ta boîte sans les frais.
Sans les frais.
Donc c'est colossal.
C'est colossal, ouais.
Donc tu peux pas.
Non, je
aujourd'hui.
Peux pas. Non.
Donc ma question c'était plutôt comment tu t'arranges avec ta culpabilité justement.
En fait,
tu lui mets des coups de tatane ou comment ça se passe?
Je trouve des entre-deux. Notamment, je continue. En fait, je taffe beaucoup. Je prends beaucoup de choses en charge et notamment, il y a des trucs où je me dis, il y a plein de fois où je me dis, putain, ça, si je le faisais faire par un graphiste, je gagnerais mon après-midi là-dessus. Sauf que le faire faire par un graphiste, ça me demanderait de sortir un petit billet de 300 balles et à la fin, si je perds mon après-midi dessus, je perds pas 300 balles. Ce qui est pas un bon mode de réflexion parce que si je réfléchis à combien moi je vaux à la journée, le taf que je suis en train de faire là, qui me fait pas kiffer, qui me prend 4 heures, alors qu'un graphiste, ça lui prendrait 1 heure, tu vois, enfin, mon mode de réflexion, il est pété, quoi. Mais c'est le switch qu'il faut que je passe là, je pense, en tant que chef d'entreprise, de réussir à déléguer. C'est pour ça qu'on faisait la blague aussi tout à l'heure avec Alex dans le chat, mais de réussir à déléguer ce genre de tâches et d'accepter de sortir de l'argent physique. Parce que là, tu vois, du coup, ma sensation, c'est « Ah, mais c'est bon, j'ai pas sorti d'argent. » Ouais, mais du coup, c'est potentiellement de l'argent qui est pas rentré aussi. Et c'est le chemin que je suis en train de faire. Donc, la culpabilité, pour le moment, je suis un peu en train de la vesquiller de cette façon-là. Mais je sens que c'est pas une manière saine de... Enfin, c'est pas une manière pérenne de le faire si je réfléchis en tant que chef d'entreprise.
C'est toujours dur de sortir de l'argent.
C'est dur, ouais, ouais. Mais moi, j'ai aucun problème, par contre, ça c'est un truc que je me disais l'autre jour, j'ai aucun problème à sortir de l'argent pour des gens en qui j'ai totalement confiance dans le taf. Exemple, je travaille, une partie de mon travail, c'est d'écrire des dossiers de financement pour des projets. Là, je travaille sur un dossier qui est hyper intéressant et qui est en affinité avec quelqu'un que je connais et qui écrit très bien. La partie écriture, moi, elle me fait moins kiffer. Je sais que je vais y passer 2 jours là où la personne que je connais, elle pourrait y passer 2 heures. Et je me dis, mais alors là, aucun problème pour sortir un petit bifton pour qu'elle s'en occupe. Et je crois qu'aujourd'hui, mon shift, il est aussi là-dessus. C'est comment je fais pour m'entourer de gens dont je suis certaine qu'ils sont fiables, qu'ils me rendront les choses dans les temps et dont le travail me rendra satisfaite dès le premier truc. Et c'est difficile parce que j'ai une forme d'exigence, j'ai des attentes vis-à-vis de la c'est même pas tant la qualité du travail parce que ce serait jugé que de dire ça, mais j'ai des attentes sur ce que sur la façon dont je veux que le travail soit fait, qui serait moi ma façon de le faire, hein, bien sûr on calcule toujours par rapport à la façon dont on le fait. Et j'ai parfois du mal à me réconcilier avec le fait que des fois ce sera pas exactement comme moi j'aurais aimé le faire.
C'est le béaba de tout
manager.
Ouais, de tout manager, ou j'allais dire de tout créateur d'entreprise qui fait tout et qui à un moment donné bascule par en fait je vais finir par déléguer. Ça va peut-être être fait à 80% par rapport à l'idée que j'ai de 100%,
ouais. Ouais.
Mais en vrai il vaut mieux ça que ce soit pas fait, ou alors que j'y passe l'intégralité,
ouais,
du temps comme tu disais tout à l'heure, quoi.
Ouais.
Et là pour le coup t'as pas de problème toi à sortir de l'argent?
Non, à partir du moment où c'est des gens avec lesquels j'ai pas de mal à travailler, où je comprends, parce que je comprends la, y a un truc aussi avec mon histoire, c'est que du coup je comprends la valeur de l'argent. Et donc quand une personne me dit j'estime que je vaux ça, que mon travail vaut ça, je suis là oui, complètement. Mais parce que moi aussi je suis dans cette démarche de j'estime que mon travail il vaut ça.
Tu comprends que ça veut rien dire la valeur de l'argent? Ça ne veut strictement rien dire. C'est une projection qu'on fait dessus. C'est tout le.
Oui, et
c'est
puis c'est une projection qui est culturelle.
Qui est surtout très perso, de base.
Oui, oui, oui.
Après,
oui.
Culturel, tu rajoutes du culturel dessus, mais c'est surtout à la base très, très personnel. Mmh. Et c'est un peu ce que j'essaie de montrer avec mon podcast, c'est qu'en fait, on passe notre temps à projeter des choses sur un truc qui n'est finalement qu'un bout de papier, quoi, tu vois, ou des pièces, peu importe, ça ne veut strictement rien dire. Tu vois, je crois que tu as aussi tout un truc autour de l'argent, les gens qui ont de l'argent, les bourgeois, c'est sale, c'est forcément l'argent corrompt, etc., etc.
Alors c'est juste qu'ils partagent pas.
Mais ça aussi, en fait, c'est moi, le travail que j'ai fait par rapport à ça, c'est bah, en fait, gagne-en toi-même.
Ouais.
Pour être capable de le partager de la bonne façon.
Ouais, moi c'est ce que j'espère faire
mais
aussi.
Le truc, c'est que je crois que plus tu penses qu'en fait c'est dur de, et qu'en fait avoir de l'argent, ça veut forcément dire devenir une personne qui va pas la partager, parce que en fait ça va faire de toi un salaud de bourgeois,
ouf.
Bah c'est très très compliqué de ce fait-là d'y aller, quoi. Ouais. Comment t'as réussi à fixer tes prix?
En envoyant des messages à Fabrice Florent. Bonjour, vous faites un podcast sur l'argent, je peux vous parler de...
Je pensais même pas que t'allais faire rire à moi. Non, mais c'est intéressant parce que tu vois, il y a aussi ce truc de comment tu fais pour fixer tes prix.
Bah, en fait, petite déconcentration, on a deux invités qui arrivent. Ça a été ma grosse question, moi, quand je suis sortie du salariat, parce que quand t'es dans le salariat, on te paye le même montant tous les mois, alors parfois avec des primes, etc. Et donc, quel que soit le travail que tu fais, tu gagnes la même chose. Moi, je mène plein de projets différents, donc mes tâches sont différentes, mon temps est réparti différemment. Donc, il a fallu que je commence à valoriser mon temps. Le temps que je passe sur des projets. Et c'était une projection hyper bizarre pour moi, d'autant qu'il fallait que je le valorise en prenant en compte mon entreprise, ce que ça sous-entend tous les mois en termes de charges, de payer le comptable, voilà, tous les frais qui passent dans l'entreprise. Et du coup, ça a été une de mes difficultés, ça a été de me dire, ok, une fois que j'ai mis les charges de l'entreprise là-dedans, combien moi je vaux par heure, par jour, par tâche. Je me suis basée sur les prix des gens autour de moi. J'ai pris en compte que sur certaines tâches, j'avais 10-15 ans d'expérience. Et après je me suis dit, j'en parle aux gens autour de moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je demande plus? Est-ce que c'est trop prétentieux? Est-ce que je demande moins, etc. Est-ce que c'est trop prétentieux? Est-ce que je demande moins?
Ouais. Intéressant. Hein.
Ouais.
Parce que pour toi, demander de l'argent, ou en tout cas avoir un certain niveau d'exigence par rapport à l'argent, c'est forcément être prétentieux.
Ouais, bah ouais, c'est pas bien. C'est pas bien, tu vois. Mais attends, on va en repassant. Je pense que c'est un autre. Mais enfin, je pense qu'on va en reparler, mais je vais aller à la fin de mon idée. Et du coup, les gens m'ont dit, bah, ton tarif, là, il est bien, mais juste pour la négociation, mais 100 euros en plus. Et j'étais là, comment ça? C'est comme ça que ça marche? Bah oui, parce qu'au pire, on me dit, t'es trop cher et tu baisses. Et au mieux, bah, t'as 100 euros en plus. Et moi, j'étais là, bah, c'est du génie, ça. Ok. Mais ça fait beaucoup, là, quand même. Non, mais vas-y. Et en fait, les gens avec lesquels j'ai fait ce type de négociation, ça a jamais bloqué jusque-là. Ce qui m'a prouvé, effectivement, que moi, c'était très, très possible que je me sous-estime, sur ce que ça vaut mon travail. Et aussi, ça m'a prouvé que, c'est un problème, tu vois. Je lis leur réponse à est-ce qu'ils estiment que je vaux ça?
Quoi?
Or,
oui. Or, c'est ton travail.
C'est mon travail qui vaut ça. C'est pas moi qui vaut ça.
Bah c'est toi par extension. Ouais. Mais ça va avec.
Mais ça va avec. Et ça, c'est beaucoup plus le cas en étant dans la vie indépendante que quand j'étais salariée. Quand j'étais salariée, j'arrivais bien à distinguer ce qui relève des remarques qui sont sur mon travail et ce qui relève des remarques qui peuvent être sur moi. Et ça, je pense que c'est un truc aussi sur lequel j'aimerais bien travailler, réussir à vraiment décorréler ma valeur perso, surtout quand je suis en train de valoriser mon travail à proprement parler.
Oui, parce que maintenant, mais ça va ensemble.
Oui, mais c'est...
ça va vraiment ensemble. Pour moi, c'est vraiment un chemin... Pour moi, le truc que je découvre là, à travers ces podcasts, c'est un chemin d'amour vers soi qui t'incite aussi à aller vers l'amour de l'argent.
Mmh.
Et en fait, l'argent n'est pas sale. Et il faut aimer l'argent.
Mmh.
Mais il faut aimer l'argent et il faut s'aimer soi. Et en fait, tu finis par faire une sorte de cercle vertueux génial, quoi.
C'est grave. Enfin, c'est grave. C'est une question de confiance en soi et moi je
et puis, puis d'éducation.
Et oui, oui.
Enfin, tu racontes c'est difficile pour toi l'argent, tu vois.
Ouais, ouais.
On revient à ce truc de c'est difficile.
Ouais.
Et toute ton histoire est ponctuée de effectivement c'est difficile.
Ouais.
C'est quoi ton ambition avec ta boîte en termes d'argent? Tu t'es fixé un objectif financier?
Bah, pas tant avec ma boîte, mais avec moi.
Mais avec ta boîte.
Franchement, je pense que ça va peut-être faire lever les yeux au ciel à des entrepreneurs. Hein, mais,
entrepreneurs de la Startup Nation.
Je te jure, moi, j'ai créé une... Alors, peut-être truc important, j'ai créé une SASU. Je suis associée unique. Je ne compte pas avoir d'associé. Et quand j'ai créé ma boîte, je me suis dit, je veux être la seule personne salariée dedans. Je ne veux salarier personne avec cette boîte.
Okay.
Je veux que ce soit une boîte qui me permette, moi, d'avoir un niveau de vie qui me convienne et qui me permette de mener les projets personnels que j'ai envie de mener.
Ok. Donc, et ça peut bouger, ça, éventuellement, en fonction de ce qui se passe, des opportunités, etc. Ou alors tu te fermes là-dessus? Enfin, tu te fermes, et puis c'est pas négatif, mais...
Non, moi, je suis jamais fermée à rien parce que je pense qu'on n'est pas... je peux pas prédire où est-ce que je serai dans... je peux pas prédire où est-ce que je serai dans un an,
ouais.
Dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que quand on me présente des projets qui me plaisent et qui me parlent, je fonce. Donc, j'aurais aucun mal à faire ça, mais actuellement, là, tu vois, je suis dans une période de fatigue.
Oui.
J'ai besoin de vacances.
Je te parle pas forcément, tu vois, pour dans deux mois, mais
ouais,
en fait, ce qui est marrant, c'est que je te parle de mon vécu perso.
Ouais.
L'un des trucs que j'ai découvert, en fait, c'est que l'ambition, c'est un muscle.
Ouais,
et
carrément.
Qu'en fait, c'est un peu comme des pompes, tu vois. Si là, par exemple, je te demande de faire deux pompes, ça va être chiant,
ouais.
Vraiment. Si tous les matins, tu fais une pompe de plus tous les matins, d'accord? Franchement, dans un mois, tu viens et tu fais 30 pompes sans aucun problème, quoi. Et en fait, j'ai découvert ça à travers ma propre histoire chez Mademoiselle, c'est que j'ai musclé aussi le projet au fur et à mesure où je me rendais compte que c'était possible de le faire.
Ouais.
Et en fait, le truc, c'est que je l'ai toujours décorrélé de l'argent.
Ouais.
Parce que j'avais peur de l'argent et pour moi, l'argent, c'était le diable, tu vois. Et en fait, le truc que je regrette aujourd'hui a posteriori, c'est de ne pas m'être fixé des objectifs financiers plus stricts, tu vois.
Oui, oui, oui.
Parce qu'en fait,
oui.
Ça, effectivement, peut-être tu ne peux pas les atteindre, mais en fait, quand tu les fixes, ça te donne un cap, tu vois.
Oui,
c'est pour ça que je te posais cette question.
En vrai, je pense que de façon informelle, moi, je me suis dit, j'aimerais bien que dans ma boîte, le chiffre d'affaires de ma première année, il est bas. Enfin, il est bas par rapport à ce que je risque de faire. Je me suis dit, je voudrais bien que mon chiffre d'affaires, il soit de 50 000 euros.
Ok.
Tu vois, je me suis dit ça de façon informelle.
Donc, ta première année, c'est 2022, là, c'est ça?
2022, ouais.
Okay.
Et je pense que, en vrai, si j'étais plus ambitieuse, je pourrais le tirer plus. Mais je me suis aussi dit que là, je sens que je suis à un moment de mon modèle où, il me manque un ou une cliente régulière,
ouais.
Pour être tranquille, sereine sur les mois à venir.
C'est des gens qui sub beaucoup plus régulièrement.
C'est ça.
Si je puis me permettre.
N'hésitez pas.
Subez, s'il vous plaît. Envoyez des subs à Marie.
Des dons dans la barre de dons, là. Y a comme ça, Amazon, ils ne prennent pas le...
Si vous écoutez le podcast, je vous mettrai un lien.
Oh, merci, c'est sympa.
Déconnons pas.
Et le fait d'être encore... Tu vois, je parlais de période de transition, d'être à cette étape-là, ça me donne l'impression que si aujourd'hui je veux gagner plus, il faut que je travaille plus. Sauf que là, je peux pas prendre plus.
Tu sais ce
plus.
Que tu peux faire aussi ?
Non.
Réfléchis, juste
Attends,
deux secondes. C'est pas un pop quiz, tu vois, mais juste, qu'est-ce que tu peux faire si tu veux gagner plus en travaillant pareil ?
Attends.
Ping.
Est-ce qu'il veut dire embaucher des gens ?
Non.
Gagner plus en travaillant pareil.
Tu as augmenté tes prix.
Ah !
J'ai vraiment l'impression que je t'ai amené. Mais tu vois, tu l'as même pas en tête.
Non,
c'est
je
ouf.
L'ai même pas en tête.
Ouais, non, pardon, je l'ai même pas en tête. Je l'ai pas en tête.
C'est un truc que je te le dis parce que en fait, c'est vraiment un truc que je voudrais dire à tous les jeunes créateurs et créatrices d'entreprises. C'est qu'en fait, vous avez la possibilité de pouvoir augmenter vos prix. Et tu vois, là, ce que tu viens de me dire tout à l'heure, tu m'as dit, OK, j'avais fixé un prix, j'ai mis 100 euros de plus et en fait, c'est passé. Bah, moi, ce que je te propose de faire la prochaine fois, c'est de mettre encore 100 euros de plus
ouais.
et de voir jusqu'où ça
ouais,
va.
Ouais.
Parce qu'en fait, les gens, à un moment donné, vont négocier.
Ouais, ouais.
Et en fait, c'est pas grave de négocier. Mais en attendant, t'auras toujours. Enfin, ça, et ça, c'est le fruit de mon travail que je fais depuis 2 ans, tu vois.
Ouais,
mais,
ouais.
mais c'est hyper intéressant. Effectivement, ça dépend après du marché, ça dépend de la concurrence, etc. Mais peu importe. Toi, en attendant, t'es quand même en train de fixer. T'es en train de fixer une.
Et d'ailleurs, j'ai une autre problématique par rapport à ça. Une partie de mon travail, ça consiste à gérer l'argent des autres. Faire en sorte que ce soit dans les clous, que les déclarations soient bonnes, etc.
Ça,
et
j'imagine que toi, de ton côté, franchement, en termes d'être dans les clous, là, on est dans les clous.
Ça
on va pas cramer trop d'argent du côté de Marie. Pas de problème.
Ça va. Merci, Suprémat, pour le sub. Pardon. et le souci avec ça, c'est que je vois aussi quand il peut y avoir des problèmes de trésorerie ou que la trésorerie risque de manquer dans quelques mois.
Alors si vous savez pas, la trésorerie en gros c'est l'argent disponible sur le compte en banque pour faire en sorte de payer les frais, donc les salaires, les loyers, etc., etc. C'est hyper important pour n'importe quel entrepreneur d'avoir en permanence de la trésorerie, qu'il soit capable de payer. L'autre truc, c'est que si t'as trop de trésorerie devant toi, c'est une connerie aussi parce que t'es en train de ce fait-là, investir de l'argent disponible dans le développement de ta boîte. Mmh. Donc, c'est toujours des arbitrages qui sont compliqués à faire.
Ouais. Je pense que j'ai besoin de parler avec des gens qui sont entrepreneurs aussi par rapport à cette gestion-là, tu vois. Mmh. Mais pour revenir à ce que...
Pardon.
Je
mettais du contexte.
Non, c'est très, très important de mettre du contexte. Ça me met aussi en empathie, du coup, avec les gens qui me payent. Littéralement, c'est même moi qui peux me faire mes propres virements, tu vois, en me mettant d'accord avec les personnes qui me payent. Et je sais que c'est aussi une chose sur laquelle il faut que je sois vigilante, c'est à être raisonnable du coup dans les cadeaux que je peux faire par rapport à ça, parce que j'ai des clients réguliers avec lesquels je peux avoir des projets un petit peu spécifiques que je vais facturer de façon supplémentaire parce que c'est plus de travail et ça m'est arrivé de voir une trésorerie un peu plus compliquée et de dire non mais c'est pas grave, je t'offre un jour en fait. D'une, parce que je me dis pour moi le taf avec cette personne il est important, il me plaît et j'ai envie de continuer à travailler avec cette personne, donc ça me paraît être une bonne raison de le faire. Et de deux aussi, parce que je suis en empathie avec la peur de manquer potentiel de la personne. J'anticipe qu'elle puisse me dire ah non mais est-ce que potentiellement tu peux m'offrir ce jour-là ou je sais pas quoi, et je pense que je vais avoir tendance à faire des cadeaux de ce type-là
alors que tu pourrais attendre que la personne te le demande.
Voilà, mais aussi parce que du coup ça m'est arrivé de faire une facture et j'étais là mais c'est beaucoup.
Après, l'autre truc que j'ai envie de te dire, c'est tu peux aussi en fait ça dépend de la façon dont tu fais le cadeau. Si tu fais le cadeau et que ça vient vraiment du plus profond de ton cœur
et te dire en fait
j'ai vraiment envie mais que au fond de toi il y a rien derrière qui vient te faire dire ok en fait je suis en train de me sacrifier d'une manière ou d'une autre, si t'es quand même en train de te sacrifier, j'ai un peu l'impression qu'il y a de ça dans la façon dont tu me le décris, tu vois, où t'as la sensation que t'es en train de te dire ok je me marche un peu dessus, voilà, c'est peut-être un peu plus déconnant j'ai l'impression.
J'y avais pas encore cet aspect-là, j'y avais pas encore réfléchi. Mais c'est des situations qui vont se présenter à moi. J'en suis à littéralement 5 mois de, ouais. de 4 mois d'ouverture de ma boîte. Donc ça va se présenter au fur et à mesure. Je vais devoir faire des choix. Hyper important du coup dans ces moments-là aussi d'être bien conseillé. Moi j'ai un comptable qui est trop cool, avec qui je pense on va pouvoir justement réajuster dans quelques semaines pour voir ok où est-ce qu'on en est, est-ce que la trésorerie ça va, enfin voilà.
Entourez-vous d'experts, ça aussi c'est un excellent conseil.
Ouais.
Tu sais quoi, j'ai envie de te donner rendez-vous dans un an ou deux, tu vois.
Ah grave, avec plaisir.
Et qu'on fasse un peu l'évolution de Marie et l'argent, ouais. et Marie qui apprend petit à petit à gagner de l'argent au pays des capitalistes.
Ouais. Ah ouais, ouais, je pense que ça va être un sacré truc. Mais j'aurais avancé. En fait, j'aurais évolué, ça c'est sûr. Mmh. Et je pense que j'aurais été confrontée à tellement de situations. C'est un muscle, comme tu dis. Et aussi, je pense que quand tu développes ce rapport à l'argent, justement, ça se... Je suis venue pour fluidifier mon rapport à l'argent.
Ouais, c'est cool.
Je suis venue pour ça.
Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené et dont tu aurais aimé parler en rapport avec l'argent ?
On parlait avec ma daronne des retraites, et donc elle est potentiellement touchée par la réforme qui va être mise en place, parce que elle se retrouve aujourd'hui à 58 ans à avoir un prêt pour sa maison qui court jusqu'à ses 67 ans. Si elle est à la retraite à 62 ans, elle ne pourra plus avoir assez d'argent pour payer le prêt de la maison. Prêt. Voilà. Donc elle a fait les calculs, et pour rembourser les dizaines de milliers d'euros qui restent pour la maison, elle doit encore travailler jusqu'à potentiellement 67 ans. Et je la regardais, j'étais là, 67 ans, elle en a 58, elle doit encore travailler 9 ans comme ça, dans l'état de fatigue dans lequel elle est, parce qu'elle est en contact permanent avec... ma mère, elle est en contact permanent avec du public, avec des gens qui ont des histoires difficiles. Elle gère des situations où il y a des gens qui se suicident, il faut aider les familles, des gens qui sont en difficulté financière, etc. Donc c'est assez lourd au quotidien. Et elle va faire ça jusqu'à 67 ans.
Ouais.
Et du coup, je lui ai dit, il te reste combien à payer ? Je sais pas si trop que je parle de ça, je préfère pas dire le chiffre parce que ça relève de elle, sa vie à elle.
Toi, tu voudrais payer ?
Et non, mais en fait, je l'ai noté mentalement. Elle m'a dit, il me reste X milliers d'euros à payer, et là, je pourrais partir en retraite un peu sereine, quoi, sans pouvoir faire des folies, tu vois. Mais au moins, ouais. Ma maison sera payée. Et j'ai noté mentalement, j'ai fait OK, noté. Et
pour d'ici à donc 4 ans, c'est ça potentiellement, parce qu'elle a 58, c'est ça, tu voudrais qu'elle s'arrête à 62?
Bah ouais, même le plus tôt possible en vrai.
Bah elle est tico, Marie. Hein.
Ouais.
Et tu vois ça, typiquement, voilà un truc qui fait partie d'un objectif clair que tu es en train de te fixer, qui est tourné autour de l'argent et qui peut être un phare pour toi. Ouais. Quoi. Je trouve que c'est intéressant de trouver des trucs comme ça. Ce qui est intéressant après, mais ça c'est ton chemin à toi, c'est que tu le fais pas pour toi.
C'est ce que j'allais dire. C'est ce
on
que
revient
j'allais
toujours
dire.
Aux autres. Quoi.
Non, non, mais complètement. C'est exactement ce que j'allais dire. Je me disais, tu vois, si tu me demandes aujourd'hui mes objectifs, ils sont plus liés aux gens qui m'entourent qu'à moi, parce que là, le niveau de vie dans lequel je suis me permet de faire ce que j'ai envie de faire. J'ai pas envie de plus. Je m'amuse comme ça. Et c'est quelque chose qui me soulage, parce que pendant un an, quand je me suis pas payée, en fait, merci Pôle emploi, j'ai bénéficié du chômage.
Merci la France.
Mais au chômage, j'étais en fonction des mois, 1400 ou 1500 balles nettes, ouais. Avec mon loyer, toutes mes charges et tout. Et donc pendant un an, j'étais là, huit mois, j'étais là, ok, alors, donc au niveau des vacances, je peux pas faire de folie, je peux pas partir en week-end, j'ai envie d'aller au resto. Au milieu du mois, je commence à me poser la question de est-ce que je peux aller au resto avec mes potes qui me proposent d'aller au resto. Franchement, j'étais là, vas-y, à 32 ans, ça me fait chier de me poser ces questions-là de est-ce que je peux aller au resto, tu sais. Et donc, j'avais hâte de créer mon entreprise aussi pour ça, de réussir à créer mon propre modèle pour pouvoir me dire, ne pas me poser la question quand j'arrive au milieu du mois et est-ce que je peux aller au resto ou pas, quoi. Et je brûle pas. Moi, c'est sûr, je brûle pas. Je suis plutôt épargnante, effectivement. Mais
t'as des sous de côté aujourd'hui ?
Oui, j'ai des sous de côté.
T'as combien de
sous de côté ? Qui m'ont permis de... Ah !
T'as combien de sous de côté, Marie ?
Bah, en gros, quand j'ai commencé à bosser en 2012, j'ai ouvert un PEL. Donc c'est de l'argent qui a été bloqué pendant 5 ans et où je me suis dit bah le jour où je voudrais devenir propriétaire. Voilà, je pourrais toucher à ça. Et donc quand j'étais salariée, j'arrivais à mettre environ 200 balles de côté tous les mois et ce qui me restait, je le mettais dans mon livret A.
Okay.
Donc au début, j'avais que ça et à peu près au moment où j'ai commencé à bosser chez MAD, je me suis ouvert une assurance vie qui fonctionne pour moi comme une complémentaire retraite parce que moi j'ai été dans le salariat pendant 10 ans. Donc aujourd'hui, c'est intéressant et là du coup, même dans mon taf dans ma boîte, je me salarie aussi donc je suis en train de cotiser pour la retraite mais je me suis dit je sais pas combien je toucherai à la retraite donc je vais me faire une complémentaire retraite à côté. Donc mes trois épargnes, c'est ça. J'ai mis un peu sur le PEL tous les mois, un peu sur mon assurance vie complémentaire retraite. Là, c'est aussi de l'argent bloqué. Et ce qui restait, je l'ai mis sur mon livret A. Du coup, sur mon PEL, l'argent bloqué, que je considère comme bloqué aujourd'hui, parce que si je le débloque, ça veut dire que je m'achète un truc, une maison avec, j'ai 20 000 euros.
Okay.
On est d'accord, c'est bien, 20 000 euros. C'est...
Oui, mais en même temps, tu bosses depuis 12 ans, non,
ouais,
c'est ça.
Ouais.
Et moi, donc, c'est pas non plus déconnant.
Et
quoi.
20 000 euros, lol, c'est même pas assez pour un apport à Paris.
T'excuses pas d'avoir 20K d'épargne au bout de 10 ans.
Je sais que ça va aller choquer
mais
dans
le chat.
Mais
en fait, on s'en fout. Regarde la peur qui vient en toi, c'est trop intéressant.
C'est bien, mais c'est peu pour acheter.
Regarde.
Oui, je sais.
C'est trop intéressant.
Mais...
Ok, donc t'as 20K sur ton PEL ?
J'ai 20K sur mon PEL, après 10 ans de salariat. Hein. Il y a des gens qui disent c'est tout, bah oui.
Mais c'est pas beaucoup.
J'ai 20K sur mon PEL et mon livret A, quand j'ai quitté Mademoiselle, bah du coup j'ai grignoté dessus. Parce que mon Pôle emploi, c'était pas assez pour vivre à Paris, en fait. Donc j'avais au moins 500 balles qui partaient de mon livret A tous les mois.
Il te reste combien là maintenant ?
Là, il me reste. Alors j'ai réussi à remettre de côté depuis que j'ai commencé à taffer avec mon entreprise. Mais en gros, j'ai perdu 6 000 euros de mon livret A. Et j'ai réussi à remettre. Là, je suis à. De nouveau, je suis à 7 000 sur mon livret A.
7 000 balles ?
Voilà.
Ok, donc tu as perdu 6 000, mais en gros, t'as perdu entre guillemets, c'est juste que tu as réinvesti dans ta vie, quoi. Dans la vie que tu as aujourd'hui.
Littéralement, je ne pouvais pas faire autrement, quoi.
Bien sûr.
Ouais.
Mais
je veux dire,
tu peux le voir comme une forme d'investissement
par rapport
à la vie que tu as aujourd'hui et qui te permet de pouvoir, au bout de 8 mois, être salarié, quoi.
Ouais.
Ok.
Et
ton assurance vie, oui, pardon.
Bah, mon assurance vie, franchement, je saurais même pas te dire combien j'ai dessus pour le moment parce que comme c'est une, c'est un système où, en fait, je sais.
Tu places X euros tous les mois et en fait, le truc fluctue en fonction de.
Je peux même pas le débloquer.
Ah non, tu peux pas le débloquer. C'est 7 ans normalement, c'est ça une assurance vie,
bah,
je crois.
Je sais pas du tout, mais wesh. Ah! Dégage, voilà.
C'est pas à moi qu'elle parle, non, c'est au chat.
Le chat. mais du coup, mon assurance vie, je sais même pas combien j'ai dessus, mais quand je me suis arrêtée de taffer, je mettais 50 euros par mois dessus, donc c'est pas beaucoup.
Bon bah, en vrai, t'as de l'argent devant toi, c'est trop cool.
Ah non, mais bien sûr. Là, moi, en fait, je suis. Du coup, ça va. Là, ça va de nouveau, mais ça va de nouveau depuis que j'ai ouvert ma boîte, en fait, parce que l'année dernière, j'étais plus.
Trop bien.
Trop bien.
Merci beaucoup, Marie.
Merci,
c'est
Fab.
C'est trop cool.
C'est trop bien.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president. You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.